Havre de tranquillité en plein centre-ville de Prague, le couvent Sainte-Agnès abrite une des collections les plus précieuses de la Galerie nationale, la collection d'art médiéval d'Europe centrale. Des œuvres uniques tant par leur qualité que par la quantité et dont on ne trouve pas d'équivalent au nord des Alpes, selon les mots de Katarzyna Pruszowa, lectrice à la Galerie nationale et professeure d'histoire de l'art à l'université anglo-américaine. Elle a accepté avec une grande gentillesse de nous faire découvrir les panneaux peints, œuvre des grands maîtres du XIVe siècle et remarquablement conservée qui compose cette collection. Ce reportage est une rediffusion du 9 janvier 2013.
Chapitre de l'histoire.
Grâce à notre guide, Katarzyna Pruszowa, nous avions déjà pu comprendre et apprécier l'atmosphère particulière du couvent Sainte-Agnès, fondé au XIIIe siècle et qui aura connu les turpitudes de 800 années d'histoire. Et c'est au sein de ce bâtiment apaisant, perdu dans les ruelles du Prague historique, qu'est exposée la formidable collection d'art médiéval de la Galerie nationale. Peu d'œuvres du bas Moyen-Âge sont parvenues jusqu'à notre époque, et à ce titre, celles conservées dans ce musée sont un témoignage unique de l'expression artistique du temps de Charles IV, quand celui-ci, roi de Bohême et empereur du Saint-Empire romain germanique, était le souverain le plus puissant du monde chrétien et Prague, sa capitale, l'un des grands centres politiques et artistiques en Europe. La visite commence par une salle dédiée à des représentations de la Vierge à l'Enfant, de la Madone. Il s'agit des plus vieilles pièces de la collection, datant de la première partie du XIVe siècle. On y découvre notamment la Vierge de Vyšehrad, lieu de sépulture de certains rois de la dynastie des Přemyslides. Il s'agit d'une vierge humble qui correspond à la figure iconographique de la Madone de l'Humilité, contrairement au modèle byzantin ou italien qui représente la vierge allaitant son enfant. Celle-ci présente la particularité d'avoir le sein recouvert. Des vierges au chardonneret nous attendent ensuite, celles de Most et de Zbraslav. L'enfant Jésus y porte un chardonneret à la main, oiseau annonçant la passion du Christ. On écoute Katarzyna Pruszowa.
Donc ça c'est la Madone de Zbraslav, qui était fondée vers la fin 13e en tant que sépulture pour des rois Přemyslides. Il y a des motifs très intéressants. Enfin, Jésus est vêtu seulement dans une chemise transparente pour faire voir son corps. Et il tient aussi le même oiseau. Et il touche la Vierge dans ses gestes assez tendres. Et la Vierge porte une bague nuptiale, ce qui est un motif qu'on peut expliquer dans la lumière de la Cantique des Cantiques, ce qui est la partie la plus érotique du Bible de l'Ancien Testament. Et au Moyen-Âge, on ne savait pas exactement quoi faire avec cette partie, avec cette très érotique des Bibles. Donc on a expliqué la relation des amoureux comme la relation de l'Église qui désire son bien-aimé alors qu'il désire le Christ. Et comme l'Église était traditionnellement représentée par la Vierge, donc on a ici la Vierge qui est mariée à Christ, qui est la fiancée de Christ, donc la mère qui est fiancée de son propre fils.
L'érotisme de ce tableau nous contraint de changer d'air. Nous poursuivons la visite vers la seconde salle. Il faut noter au passage que le musée est très bien aménagé et s'y promener est très agréable. Une nouvelle salle donc où s'offre aux yeux du spectateur un cycle de 9 tableaux qui surprennent par leur couleur or. Katarzyna Pruszowa.
Ici, on est dans une salle où est conservé le retable de Vichybrod, en allemand on dit de Hohenfurt. Vichybrod se trouve en Bohême du Sud. Il y a un magnifique couvent des cisterciens à Vichybrod. Ce cycle a été présenté soit en tant qu'un retable pour à l'église à Vichybrod dans une forme carrée, donc vous voyez qu'il y a 9 panneaux peints. Donc il y a des chercheurs qui pensent que c'était présenté dans 3 registres, puisqu'il y a un cycle qui parle de la au Noël, il y a l'Annonciation, la naissance de Jésus, le roi mage, donc c'est un cycle de Noël. Après, il y a trois images sur la souffrance de Christ, donc c'est le cycle de Pâques, c'est-à-dire le Christ sur la montagne des Oliviers, la crucifixion et la lamentation après la suite à la descente du croix. Et les trois derniers tableaux, c'est la glorification de Christ et le Pentecôte, donc la descente du Saint-Esprit.
Membre de l'une des plus puissantes et influentes familles de Bohême, Pierre de Rogenberg, un aristocrate contemporain de Charles IV, aurait financé cette œuvre. Certains historiens de l'art pensent que le cycle n'aurait pas été exposé au couvent de Vyšehrad, mais à Prague, à la cathédrale Saint-Guy, pour le couronnement de Charles IV, roi de Bohême, en 1347. Le cycle de Vyšehrad est en tout cas une des pièces majeures de la collection, et elle a d'ailleurs attiré certaines convoitises.
Aussi, ce qui est très intéressant, c'est ce qui a fasciné aussi Hitler. Hitler voulait beaucoup acquérir cet hôtel dans sa collection parce qu'il a envisagé de fonder un musée à Linz. Il voulait avoir une sorte d'hermitage ou de Louvre. Donc, on sait qu'il voulait vraiment acquérir le Van Eyck, l'hôtel de Ghent, le retable de Ghent de Van Eyck. Il aimait beaucoup aussi Maître de Vyšehrad. Heureusement, ce cycle a survécu dans le studio des restaurateurs, puisqu'ils ont dit qu'il faut le toucher un peu, qu'il faudrait le restaurer. Donc ça n'a pas. C'était brièvement en Allemagne, mais c'est revenu dans des collections de la Galerie nationale.
Cette œuvre est effectivement fascinante et les 9 panneaux peints recèlent de personnages et de détails remarquables. Plusieurs œuvres, telles que la Nativité ou la Glorification du Christ, présentent des ébauches de perspectives, marques de l'influence italienne. Katarzyna Pruszowa nous fait remarquer que les peintures sont cependant inégales. Certaines présentent des visages peu expressifs et la composition reste simple. Il faut dire que ces 9 réalisations ne sont pas l'œuvre d'un seul artiste, mais de plusieurs, qui est donc le fameux maître de Vyšehrad.
C'est un maître anonyme qu'on a nommé d'après ce cycle parce que au Moyen Âge, soit on connaît le nom de l'artiste, mais on ne peut pas lui attribuer quoi que ce soit. Ou on a justement des œuvres d'art, on a un cycle, mais on ne connaît pas le nom de l'artiste. Donc, au Moyen Âge, c'est une situation très difficile parce que ce n'est qu'un fragment qui a survécu à nos jours. Ce n'est qu'une dixième, peut-être, si trop de la richesse qui nous est survécue, parce que le bois, spécialement, ça brûle très bien.
Cependant, une exception confirme la règle, et c'est ce que nous prouve la salle suivante où une série de portraits attendent le visiteur, des portraits dont le style diverge fortement avec le style linéaire typique des réalisations de la moitié du XIVe siècle que l'on a pu appréhender jusque-là. Katarzyna Pruszowa.
Ces six tableaux font partie de la collection de 129 tableaux. À l'origine, il y avait 130 de ces panneaux qui sont placés à Karlstein, ce qui est un château à l'ouest de Prague. Et un tableau est perdu, mais c'est vraiment un miracle que ces 129 tableaux soient survécus à nos jours. Et ils étaient peints par Maître Théodoric. Donc, dans ce cas, on connaît le nom de l'artiste, on a quelques détails sur ça, on connaît quelques détails sur sa vie. Et on sait ce qu'il a peint. Les tableaux nous sont survécus, donc c'est un cas très rare pour le Moyen Âge. Maître Théodoric, c'était un peintre des cours de Charles IV. Et il a décoré cette chapelle Sainte-Croix, il a recouvert avec des tableaux, avec des demi-figures de saints qui doivent représenter l'armée sainte du Christ. Qui devait protéger à la chapelle Sainte-Croix les joyaux de couronnement, des joyaux impériaux, la couronne impériale, ce qui était placé à Karlstein et d'autres reliques importantes.
Dans les cadres des tableaux, des emplacements recouverts de pierres précieuses permettaient de déposer des reliques, mais en près de 6 siècles de temps, elles ont pu être perdues ou des ingénus ont tout simplement pu s'en emparer. Il s'agissait en réalité de reliquaires sous forme de tableaux, car Charles IV ambitionnait de réunir toutes les reliques de tous les saints en un emplacement unique, réalisation dont l'ambition était ni plus ni moins de faire revenir le Christ sur terre, ce qui n'aurait pas manqué de conforter la puissance de l'empereur. Un empereur qui vénérait Charlemagne, or ce dernier est représenté sur l'un des panneaux peints, et selon Katagina Pluchova, c'est un cryptoportrait. Le portrait de Charlemagne cacherait celui de Charles IV. Les traits des personnages représentés sont très détaillés et témoignent de la maîtrise exceptionnelle de maître théorique. Et c'est avec un autre maître que nous allons achever la visite, le maître de Trébogne, que nous présente notre guide devant une œuvre représentant le Christ sur la montagne des Oliviers.
Maître de Trébogne n'a plus travaillé pour des aristocrates ou pour un souverain, mais il a travaillé pratiquement uniquement pour l'ordre monastique, pour les Augustins de Chamois, ce qui est un ordre monastique très riche traditionnellement. C'est un style déjà complètement différent du style de Maître Théodorique, de ce style chez Maître Théodorique. On a vu des figures robustes, avec des veines très naturalistes. C'est devenu vraiment un style impérial de Charles IV qui est reconnaissable facilement. Donc Maître de Trébogne, il change complètement. Ici, on voit des figures qui sont pratiquement dématérialisées. Il utilise des diagonales dans ses compositions. Il les utilise des ciels qui sont rouges avec des étoiles dorées.
Le maître de Trébogne semble déjà subir des influences franco-flamandes, là où ses prédécesseurs étaient plus tournés vers l'Italie. La qualité d'un voile transparent recouvrant le corps du Christ sur la troisième œuvre de ce cycle témoigne de son brio. C'est avec cette œuvre que se termine notre visite radiophonique qui mériterait pourtant qu'on s'attarde bien plus longuement sur les trésors que recèle ce musée, tels que l'admirable collection d'art hussite.